Et maintenant, nous vous proposons d'entendre la première partie d'une série de conférences autour de la constitution dogmatique Dei Verbum sur la révélation divine du Concile Vatican II. Elle était présentée par le Père Michel Leclerc, enregistrée dans le cadre des Jeudis du Concile au Centre diocésain du Béarn à Pau. C'était le 16 octobre 2025. Nous écoutons le Père Michel Leclerc.
Donc, Dei Verbum... Dei Verbum, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, c'est donc une constitution qui est sous-titrée Constitution dogmatique sur la révélation divine. Donc on va beaucoup parler aujourd'hui, on va voir le document aujourd'hui de manière générale, son histoire et puis le thème général. Et on va parler du concept de révélation. Alors, quand on parle de révélation, donc ce que Dieu nous a révélé, pour un théologien, immédiatement, il pense au Concile Vatican I, donc au XIXe siècle, ce concile qui s'est achevé brutalement par la guerre de 1870 et qui n'a pas été fini, et qui devait faire un grand texte sur la révélation. Concile Vatican I a été convoqué pour répondre au grand mouvement rationaliste de l'Europe du XIXe siècle et pour dire en particulier il est possible que Dieu se révèle. Voilà, c'est parce que les rationalistes disaient « Dieu ne peut pas se révéler, en tout cas c'est ridicule ». Donc le Vatican I réaffirme « Il est possible que Dieu se révèle, qu'il y ait une révélation qui vienne de Dieu ». Mais ce qu'est cette révélation, comment elle nous est parvenue, ça devait être la fin du Concile Vatican I, et les pères du Concile ont été dispersés par la guerre de 1870, et donc la fin était restée en suspens. Et donc, c'était au programme de Vatican II, c'est une des premières choses qui a été au programme, et ça a été très laborieux, parce que pour sortir ces 20 pages, il a fallu tout le Concile, parce que les pères se sont disputés littéralement, n'étaient pas d'accord sur ce qu'ils voulaient dire sur la révélation. Au début, le premier texte a été la liturgie, parce que tout le monde était d'accord, ça a été vite plié, une session. Alors vous voyez, a posteriori, la liturgie c'est plutôt un sujet chaud aujourd'hui, la révélation, qui se dispute sur la révélation. Et bien, de 1962 à 1965, la révélation c'était le sujet chaud. Alors, pourquoi c'était un sujet chaud? Parce que il y avait derrière des enjeux œcuméniques en particulier. Il y avait un enjeu autour, on va en parler, de ce que les protestants appellent la sola scriptura, donc ce principe de la réforme protestante qui est de dire que l'écriture seule est source de la révélation. Et donc, il fallait que l'Église dise quelle est la foi catholique à propos de l'Écriture, des sources, on va voir si on peut parler comme ça, de la révélation. Donc, il y avait cette question-là, l'enjeu œcuménique, qui a été donc assez... Ça a été chaud. Il y a eu de vraies disputes pour arriver certainement à un des textes qui est le plus ciselé du Concile, un texte... On considère que c'est un des plus aboutis dans le Concile. En fait, ils ont mis 5 ans, ou un peu moins de 5 ans, mais quasiment, à le travailler. Et donc, on peut considérer que le texte final est très abouti. Voilà, c'est vraiment un texte... Les théologiens considèrent que c'est une petite perle. C'est très différent de Lumen Gentium. Lumen Gentium ouvre des portes. C'est le renouveau de l'ecclésiologie et donc qui a été retravaillé après. Lumen Gentium, c'est un texte très... plein du vent du Saint-Esprit. Dei Verbum, c'est un texte précis. On sent que chaque mot a été discuté, chaque formule a été discutée, et c'est un texte, c'est une constitution dogmatique. C'est-à-dire qu'elle définit quelle est la foi de l'Église. C'est vraiment important, constitution dogmatique définit quelle est la foi de l'Église. On verra le mot définition, dans quel sens il faut le prendre. Vatican I avait travaillé donc la possibilité de la révélation, le rapport à la raison, et puis la question du magistère, et en particulier de l'infaillibilité du pape. Le pape pouvait être infaillible dans certaines conditions. Puis on s'est arrêté là. Et donc, Vatican II récupère le dossier. Il restait à travailler la question de l'écriture, de ce qu'on appelle la tradition. Le rapport mutuel entre l'écriture et la tradition, ça, c'est assez difficile. Et puis, la nature même de la révélation. Donc, ce sont des sujets qui ne sont pas simples. Alors, je vais essayer de tracer l'histoire, parce que là-dessus, c'est quand même bien de connaître l'histoire de la constitution du texte. Le pape, à l'époque Jean XXIII, quand il convoque le concile, confie au cardinal qui était responsable de ce qui était à l'époque le Saint-Office, qui est maintenant la congrégation pour la doctrine, le dicastère pour la doctrine de la foi, de préparer un texte. Et donc c'est le cardinal Ottaviani, assez connu, c'est vraiment la vieille école de théologie romaine, qui a ses qualités et ses défauts. C'est un cardinal à l'ancienne, Ottaviani, un homme qui venait du tout petit peuple, mais vraiment le cardinal italien par excellence de cette époque-là. Et il s'appuie sur un théologien qui est connu, qui s'appelle, non pas Trump, mais Trump, qui est un jésuite. Et Trump, il est connu pour avoir en particulier travaillé sur l'Église comme corps du Christ, sous le pontificat de Pie XII. C'est lui qui a beaucoup travaillé chez saint Paul la question de l'Église comme corps du Christ. Et donc Trump et Ottaviani préparent un schéma qui devait être soumis au père du concile. Et ce schéma, il l'appelle, c'est assez célèbre, De Fontibus. Alors, en latin, ce qui veut dire De, c'est au sujet. Fontibus, c'est le mot fons, ça veut dire la source. Donc, au sujet des sources, au pluriel. Et ici, l'important, c'est le pluriel. Parce que, dans la théologie de cette époque, on disait facilement, il y a deux sources dans la révélation. Ces deux sources sont l'écriture, la parole de Dieu écrite, et la tradition, la parole de Dieu transmise par d'autres moyens que l'écriture. Et donc, on faisait facilement un schéma en disant, ben, y a l'écriture, il y a la tradition, c'est les deux sources qui convergent et qui font quoi ? La révélation. Mais ici, ça va nous poser deux problèmes et qui vont se poser très très vite parce que le schéma de Ottaviani et Trump sera refusé dès la première session du concile. Pourquoi ? Parce que les pères du concile disent c'est pas que c'est faux, on peut le dire comme ça, c'est pratique. Généralement, c'est la première approche qu'on fait en théologie quand on enseigne cette partie de la théologie, on commence par dire, voilà, il y a deux sources, mais les pères du concile ont dit, c'est un petit peu superficiel. Parce que, déjà, une source, c'est une origine. Et quelle est la source de la révélation ? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui se révèle, c'est la parole de Dieu. Quand je dis parole de Dieu, ici, je ne parle pas de l'écriture. Je parle de manière beaucoup plus large de ce que Dieu dit de lui-même à nous. Et donc ça posait cette première question de dire de quoi parle-t-on quand on parle de source de la révélation. Et donc c'est en particulier ici tout le courant allemand qui critiquait cette notion de ce qu'on appelle l'école des deux sources et qui disait attention quand quel est le véritable rapport entre l'écriture et la tradition ? Est-ce qu'on les pose côte à côte ou est-ce qu'elles s'imbriquent ? Le concile de Trente avait déjà abordé cette question. Il disait « On trouve la vérité révélée, la vérité salutaire, et dans l'écriture, et dans la tradition. » Trente, évidemment, réagissait au principe de Luther, qui disait « On trouve la vérité qui apporte le salut uniquement dans l'écriture, sola scriptura. 30 dit et dans l'écriture et dans la tradition. Mais 30 ne nous dit pas quel est le rapport entre l'écriture et la tradition. Et l'école allemande dit, quand on dit qu'il y a deux sources, le danger, c'est qu'on ait l'impression qu'il y ait vraiment deux sources. Vous voyez, il y a une source là qui jaillit, là, une source qui jaillit, puis qui finissent par faire un réservoir d'eau qu'on n'a pas appelé la révélation. C'est beaucoup plus fin que cela, et il ne faut pas durcir le Concile de Trente. Il faut le recevoir, mais l'affiner. Donc le « et », qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, premier point que soulève l'école allemande, les grands théologiens allemands, les grands cardinaux allemands en particulier. Il y avait des Français aussi, Lienard. Enfin, voilà, derrière, il y a par exemple Frings qui a comme théologien au concile un certain Joseph Ratzinger, tout jeune théologien, qui est passionné par ça. C'est vraiment un de ses sujets fétiches du moment. Ratzinger a beaucoup travaillé justement pour essayer d'affiner ça, de dire ça va pas, ça c'est rudimentaire. Et en plus, pourquoi ça va pas? Parce qu'il y a aussi un enjeu œcuménique pour dire, en fait, ça nous sépare des protestants, mais de manière indue. Si on est séparé parce qu'on n'est pas d'accord, très bien. Et si on est séparé parce que nous exprimons mal une vérité, c'est à nous d'approfondir pour leur montrer qu'on n'est pas juste contre eux. On va au cœur des choses. Donc, l'enjeu œcuménique est un enjeu théologique. Donc, les rapports entre l'écriture et la tradition, ça va être un des enjeux majeurs de ce texte. Donc, le problème des deux sources. Et puis, plus profondément, plus spirituellement, ce problème des deux sources va montrer que le mot révélation a plusieurs sens. Ce schéma-là, qui n'est pas faux, qui est, je vous ai dit, rudimentaire, il est vrai si on prend la révélation comme ce que les théologiens appellent l'ensemble des vérités révélées. Vous voyez, quand je dis l'ensemble des vérités révélées, ça a un côté un peu scolaire. Une liste de vérités, je ne sais pas, par exemple, Dieu est unique, Dieu est Trinité, il s'est incarné dans le Verbe, Jésus-Christ est vraiment homme et Dieu. Vous voyez, tout ça, ce sont des vérités. Mais est-ce que la révélation, c'est une liste de vérités? Oui, en un certain sens. Mais c'est beaucoup plus que cela. Et c'est ce sur quoi, dès la première session du Concile, puis à la deuxième, puis jusqu'à la dernière, vont beaucoup travailler les pères, c'est pour essayer d'élargir la notion de révélation, pour nous dire en fait la révélation, c'est pas juste l'ensemble des vérités révélées qui serait, vous voyez, une sorte de liste humaine. C'est Dieu lui-même qui se révèle. Et donc la révélation, c'est un mouvement divin qui vient à la rencontre de l'homme. Et cela conduira les pères à dire, finalement, la plénitude de la révélation, c'est le Christ. C'est le Verbe incarné. C'est la personne du Verbe incarné qui se révèle dans tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait et même tout ce qu'il supporte. Il y a la fameuse phrase « acta et passa ». Les actes et les choses supportées par le Christ sont des œuvres de révélation. Donc, approfondissement de la notion de révélation. Alors, pour la petite histoire, premier vote, ça a failli passer. Il fallait les deux tiers des voix. Il y avait 2200 et quelques pères au concile, et il y a eu 1360 votes pour, ce qui était pas mal. Mais il fallait les deux tiers, et donc il manquait quelques voix. Donc, texte rejeté à retravailler. Le pape Jean XXIII fait comme on fait souvent dans ces cas-là. Il prend le leader de chaque camp et leur dit « Vous allez faire une commission ensemble et vous mettez d'accord. » Donc le leader de chaque camp, c'était le cardinal Béat, donc un jésuite, pour refondre le texte, et le cardinal Ottaviani, qui était l'auteur du premier texte. « Mettez-vous ensemble, mettez-vous d'accord. » En 1963, la commission Bea Ottaviani revient et dit, bon ben, on a réfléchi, et à la place d'un document qui s'appelle « Au sujet des deux sources », on propose un document qui s'appelle « De révélationne », c'est-à-dire « La révélation divine ». Et vous voyez, on a un peu changé l'objectif de la caméra. Au lieu de parler des deux sources de la révélation, de faire un truc technique, on passe à quelque chose de plus spirituel, de plus aéré. La révélation divine, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que pour Dieu se révéler ? Et donc on est passé de 62 en 63. Mais en 64, ce texte fait par Ottaviani et Bea est jugé pas assez clair par les pères. Il y a des critiques assez sévères, certains le jugent trop ambigu, notamment, ils disent on ne voit pas vraiment comment la doctrine catholique ici se différencie du protestantisme. Il y a trop d'ambiguïté. Texte à nouveau rejeté. Et il faudra attendre octobre 65, donc la dernière session du Concile, où là le texte est très très largement accepté. Il y a eu 2081 voix pour et 27 contre. Donc voilà, quand il y a 27 voix contre, vous voyez, sur 2000, c'est que vraiment le texte fait la quasi-unanimité. Donc ça, c'est le premier vote. Le pape publie le texte. J'ai oublié de vous dire, Jean 23 est intervenu personnellement et Paul VI aussi. Parce que le pape intervient pendant le concile, parfois pour dire « je veux qu'on aille dans tel sens ». Et une fois que le texte est publié, là c'est l'intégralité des pères du concile qui signent. Tout le monde signe. Personne n'a refusé de signer. Donc c'est quand même un signe très fort. Le magistère est unanime, les évêques sont unanimes pour nous dire « voilà quelle est la foi catholique ». Alors, voilà pour l'histoire succincte de ce texte. Je ne vous ai pas dit tous les détails autour, mais ça a été assez violent. Dans les milieux théologiques, on s'est quand même écharpé autour de ce texte. Si on prend la littérature, enfin les revues de théologie de l'époque, c'est l'Assemblée nationale un jour de motion de censure. Ouais, c'est chaud. Vraiment. Et donc, il y a des accusations, des textes où on dit si on fait ça, vraiment, on ratera quelque chose, il serait infiniment dommage que. Enfin voilà, il y a un véritable enjeu, et un enjeu humain. On va allumer, parce que la nuit tombe. Le soir approche déjà, je vous remercie. Et donc, moi, ce que je voudrais voir là maintenant avec vous, c'est essayer de rentrer dans l'idée majeure de ce texte pour comprendre le plan. On est sorti de ce schéma-là que j'efface. Alors, encore une fois, vous pouvez le trouver un jour dans un... Vous pouvez même trouver l'expression « les sources de la révélation ». C'est pas choquant. Simplement, les théologiens et les pères ont bien affiné pour dire... Plus que les sources qui nous donnent une liste de vérités au pluriel révélées, qu'on appelle le dépôt de la foi, trouve en latin souvent depositum fidei, mais le dépôt de la foi, c'est on a l'idée d'un panier dans lequel on dépose les vérités de la foi. Le dépôt de la foi, c'est l'ensemble. C'est pas faux. Vous voyez, si vous prenez le catéchisme de l'Église catholique, vous pouvez dire qu'il y a un ensemble, si vous prenez les synthèses qu'il y a à la fin de chaque chapitre, il y a un ensemble de vérités qu'on peut compiler, ça nous fait un dépôt de la foi. C'est pas faux. Mais les pères vont beaucoup plus loin. Ils vont nous dire, au début, il y a Dieu lui-même. Mais Dieu est amour. Et l'amour est diffusif de soi. Ce qui est vraiment... ça, c'est capital de bien comprendre ça. Mais... l'amour ne peut pas ne pas se communiquer. Hatzinger dira que Dieu, parce qu'il est amour, s'auto-révèle. par acte d'auto-révélation. Et donc, vraiment, Dieu, parce qu'il est amour, se diffuse. Vous voyez, on a cette expérience de l'amour diffusif. Quand on est tellement heureux de quelque chose, on a envie d'en parler à ceux que l'on aime. Vous voyez, j'ai une très bonne nouvelle. Je me dis à qui je peux en parler. Ça m'est arrivé ce midi, j'ai un frère là, qui sortait d'une formation à Paris. Il me téléphone. Puis au début, je me dis, il y a un truc à régler. Puis il me parle de sa formation. Alors, c'est bien, on en parle. Puis au bout d'un moment, je lui dis, mais t'as quelque chose à me dire? J'étais tellement enthousiaste que j'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Voilà, et donc, vous voyez, c'est quand on aime, on veut partager. L'amour est diffusif de soi. Et donc, Dieu, parce qu'il est amour, se diffuse, veut se diffuser. Et donc, il se dit, c'est la parole de Dieu. Alors, on va voir ce que c'est. Quand je dis parole de Dieu, généralement, quand on parle de parole de Dieu, c'est pour parler des Écritures. Ici, parole de Dieu, c'est beaucoup plus large. C'est tout ce que Dieu dit de lui-même. Et qu'est-ce qu'il dit ? En fait, il se dit. Parce que la parole de Dieu, avant d'être une parole prononcée, elle est en Dieu lui-même. Et c'est dans la Trinité, le Père, qui est l'origine sans origine, engendre le Fils, qui ne lui est pas inférieur et qui lui est consubstantiel, mais il l'engendre en se disant lui-même. C'est pour ça que le Fils, on l'appelle aussi le Verbe. Si j'ai en moi une idée de moi, je me comprends, je sais qui je suis, je vais vous la dire pour la communiquer. Ce Verbe, cette parole, c'est moi en tant que je me dis. Le Fils, le Verbe, c'est le Père qui se dit. Et donc, vous voyez, c'est le même mouvement de se diffuser, de se dire, qui est en Dieu, qui va du Père au Fils, puis qui remontera dans le Saint-Esprit, et qui va de Dieu à nous, à travers quoi ? La parole que Dieu dit dans l'Ancien Testament, où Dieu se dit par ce qu'il dit au peuple hébreu, mais la parole de Dieu, en plénitude, c'est le Verbe lui-même, qui vient et qui se fait homme. Vous voyez, là, on est passé d'une liste de vérités à Jésus, Verbe incarné, qui nous dit qui est le Père. Souvenez-vous, la parole de Philippe à Jésus, « Montre-nous le Père et cela ira bien, cela suffit. » Réponse de Jésus, Philippe, « Qui me voit, voit le Père. » Donc, la parole de Dieu, c'est le Verbe. Le Verbe incarné, c'est Jésus. Et la révélation, c'est donc cette rencontre entre Dieu qui se dit dans le Verbe et l'homme qui cherche Dieu. Et alors, vous voyez, ici, on a pris de la hauteur, on est passé d'une révélation objective, où on avait donc la liste de vérité, à une révélation qui est une rencontre entre Dieu et l'homme. Attention, ce n'est pas parce qu'on a pris de la hauteur que la révélation objective n'existe plus. Il y a bien un dépôt de la foi qui est repérable. Le credo que l'on récite ensemble, qu'on proclame ensemble à la messe, c'est une liste. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit. C'est une liste. C'est le dépôt de la foi, c'est l'objet de la foi. Donc vous voyez, c'est une liste objective. Mais cette liste, elle ne fait que dire, de notre point de vue, comment nous recevons le Verbe fait chair, plénitude de la révélation. Et donc, ce que le Concile a voulu faire d'abord, ce sera le chapitre 1 de Dei Verbum, on y reviendra, c'est nous dire... Dieu et l'homme se rencontrent parce que Dieu vient à la rencontre de l'homme en se révélant. Donc il y a un dessein, une volonté divine de se faire connaître, de venir à la rencontre par amitié. hein, par amour. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre qu'on n'est pas sorti de l'objectivité de la révélation, mais qu'on lui a donné son amplitude en l'inscrivant dans la rencontre entre Dieu et l'homme. Le texte devra nous dire, du coup, comment on fait, parce que certains ont dit, oui, mais alors chacun a sa compréhension de Jésus, du Verbe. Donc, on retombe, alors non pas dans la sola scriptura, mais dans ce qu'on appellera le libre examen, où chez les protestants, j'ouvre ma Bible, et je me dis, qu'est-ce qu'elle me dit ? Ah ben toi, elle te dit ça, moi, elle me dit ça, c'est deux choses différentes, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des révélations ? Non, il n'y en a qu'une. Parce que, et ce sera tout l'enjeu du texte de nous dire, il y a bien une rencontre entre Dieu et l'homme, mais cette rencontre est objective et non pas subjective. Subjective au sens du subjectivisme, du relativisme. Dieu se donne, mais il ne se donne pas à chacun de manière différente. Il se donne tout entier lui-même, et donc il va nous donner des moyens de le connaître. Et ces moyens, c'est l'écriture et la tradition. Qui reviennent, mais non plus comme source, mais comme des canaux qui transmettent cette parole de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu est antérieure à l'écriture et à la tradition. Et l'écriture et la tradition sont les canaux qui transmettent cette parole de Dieu et qui nous la transmettent objectivement. Ce qui fait qu'on va pouvoir arriver à notre catéchisme de l'Église catholique et à un objet de la foi et un dépôt de la foi qui est très objectif. Vous voyez, quand vous faites du caté à des enfants, vous devez tenir deux choses à la fois. Les mener à la rencontre de Jésus, mais leur dire la rencontre de Jésus, c'est je crois en Dieu, en trois personnes, en Jésus-Christ, son Fils unique. Et s'il y a un enfant qui vous dit « Ouais, mais moi, dans ma rencontre avec Jésus, je sais pas, il y a une quatrième personne dans la Trinité », ben vous lui direz « Ben non ». Là, tu t'es trompé. Ce n'est pas ma subjectivité qui mesure la rencontre avec Jésus, c'est la rencontre avec Jésus qui mesure ma subjectivité. Mais la foi, c'est bien une rencontre avec Jésus, ce n'est pas juste l'acceptation extérieure d'une liste de vérités que j'admets. Ou plus exactement, si on veut aller jusqu'au bout, accepter, parce que vous verrez que le concile parle d'obéissance à la foi comme obéissance, accepter ces vérités, c'est, si je le fais vraiment, c'est entrer en contact avec le Verbe de Dieu. Et donc quand je dis le dimanche, le credo, ma liste de vérités, j'entre en contact avec Dieu. C'est ça qu'il faut bien comprendre et que le concile veut nous rappeler, c'est que je ne fais pas que proclamer une liste de vérités qui serait les vérités du parti catholique. Vous voyez, comme un parti politique pourrait dire, au parti communiste, nous tenons la lutte des classes, la société sans classe, la dictature du prolétariat, etc. Je prends ça pour être sûr d'avoir un corpus de vérités bien établi. Eh bien, quand un catholique proclame le credo, à travers les vérités qu'il affirme, il entre en communion avec le Verbe de Dieu, avec la parole de Dieu, et donc avec Dieu lui-même. Il y a un acte théologal dans la foi, dans la proclamation de la foi. Ce qui est théologal, c'est ce qui me met en contact avec Dieu. Et vous voyez, alors là, je sors du concile, mais il y a un théologien qui a fait une analogie assez osée. Il dit, attention, c'est pas la même chose, mais il y a quelque chose qui ressemble. Quand je communie, je reçois l'apparence du pain, l'espèce du pain, mais dans cette apparence, c'est la substance du corps du Christ. Et donc, en recevant le pain eucharistique en moi, c'est le Christ qui substantiellement vient en moi. Alors, on peut faire une comparaison, ce qu'on appelle une analogie, ce qui veut dire que dans une analogie, il y a quelque chose qui ressemble, mais il y a quelque chose qui diffère. C'est très différent. Mais il dit, quand je proclame, par exemple, je crois que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, dans cette vérité de foi, Cette vérité, elle est comme le pain qui va contenir une présence de Dieu qui se révèle. Alors attention, ce n'est pas une présence eucharistique, ce n'est pas une présence sacramentelle, ce n'est pas une présence substantielle. Mais il y a dans la proclamation d'une vérité de foi un contact théologal avec Dieu qui se donne. Et donc, vous voyez, ça nous fait prendre conscience de l'enjeu de ce texte sur la révélation divine, qui n'est pas juste de dire « Bon, alors on va commencer par dire qu'est-ce qui est catholique et qu'est-ce qui n'est pas. » Ce qui est nécessaire parfois. Mais le Concile a voulu aller plus loin et nous dire comment la foi nous fait entrer en relation avec Dieu. Comment la révélation de Dieu, c'est un acte de Dieu qui vient à ma rencontre et il y a un vrai contact par la foi qui est une vraie illumination, comme disent les pères, pour le coup les pères de l'Église, hein, les pères aussi bien grecs que latins, une vraie illumination de l'âme par la lumière même de Dieu. Dieu se fait connaître dans la révélation. Alors, je vous ai dit que c'est une constitution dogmatique et que donc cette constitution, elle donne des définitions. Habituellement, jusqu'à Vatican II, souvent les conciles posaient à la fin de leur enseignement des anathèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un anathème ? C'est, on disait, il y avait un texte, par exemple, si on prend, je ne sais pas, on va prendre la 34, un concile du Moyen-Âge important. La 34 a par exemple défini qu'on pouvait prier pour les défunts. Donc on enseigne, et puis à la fin on dit « Celui qui dit qu'il est inutile de prier pour un défunt, qu'il soit anathème. » Vous avez ça quand vous étudiez tous les conciles jusqu'à Vatican II. Il y a des anathèmes à Vatican II. Alors, le but, c'est pas de taper sur les ennemis. Souvent, quand jeune étudiant en théologie, ça nous fait rire en disant, dis donc, qu'ils y vont à la fin. Anathème, ça veut dire en dehors de l'Église. On les repousse. On dit, ils n'y allaient pas avec le dos de la cuillère. En fait, le but des anathèmes, c'est de faire une définition. Définir, comme le nom l'indique, c'est poser des limites, ce qui finit. Vous voyez, en latin, finesse, finis, c'est la limite. Et donc, on définit ce qui est catholique de manière négative. On dit, celui qui dit qu'il faut être là, ben, il n'est pas catholique. Celui qui dit qu'il faut être là, il n'est pas catholique. Celui qui faut être là, on donne les limites. On dit, du moment où vous êtes dans ces limites, vous êtes catholique. Donc, vous pouvez dire qu'on doit prier pour les défunts, mais que ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez dire qu'on doit prier pour les défunts, mais qu'on ne sait pas si ce sera efficace. Vous pouvez dire... Ça, c'est ce qu'on appelle les opinions théologiques. Vous êtes libre. Là, vous êtes libre. Mais ça, c'est une limite. Une définition dogmatique, c'est ça. C'est nous dire où est la vérité que Dieu nous a dite, comment il s'est révélé. C'est pour ça qu'il y a des anathèmes à la fin des conciles. Le Vatican I n'a pas voulu faire d'anathème. Donc le Vatican II n'a pas voulu faire d'anathème. Donc on n'a pas de limite au sens strict, mais ce que fait le Concile, c'est nous dire d'essayer de décrire l'intérieur. Pourquoi fait-il ça ? Pour essayer d'approfondir. Parce que quand on fait un anathème, quand on fait une définition, on pose de manière très carrée justement l'objet de la foi, ce qui va nous donner après la liste. Mais il reste encore à méditer l'intérieur de chaque vérité. Vous voyez, je dis, il y a un seul Dieu et pas deux. Celui qui dit qu'il y a deux dieux, qu'il soit un. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a qu'un Dieu ? Là, il va falloir creuser. Ben, ce que fait Vatican II, c'est de nous dire, non pas... Celui qui dit que la révélation est impossible, qu'il soit anathème. Celui qui dit que la révélation passe par la seule écriture, qu'il soit anathème. Tout ça, c'est déjà fait. Il nous dit, penchons-nous sur ce qu'est la révélation. Et donc, le premier chapitre, ça sera la révélation divine en elle-même. Et c'est une belle méditation. C'est quasiment une méditation qu'on pourrait prendre comme une oraison, hein, une méditation à la fois biblique et intérieure sur ce qu'est la révélation. Donc ce sera le grand chapitre 1 de Dei Verbum. puis, logiquement, ce qui suit, c'est bon. Une fois qu'on sait que Dieu s'est révélé, que Dieu vient à nous, qu'il fait irruption dans notre vie, qu'il nous parle, comment je sais ce qu'il m'a dit? Et là, chapitre 2, ce sera la tradition. Parce que la tradition, ça on verra pourquoi le deuxième chapitre, c'est la tradition, et non pas l'écriture. Parce que nous, logiquement, souvent on dit, bah, comment on sait ce que Dieu nous a dit? Bah, l'écriture. Et bah, l'écriture, voilà, elle nous vient d'où? L'écriture, elle nous vient d'une transmission qui se fait par l'Église et qu'on appelle la tradition. Et ça va être l'occasion pour le Concile de alors là, pour le coup, d'un texte magnifique, ce chapitre 2, sur la tradition comme transmission de la révélation. Et la tradition, c'est un acte. Alors ça, on pourra l'étudier un peu en détail. Ici, c'est le certainement, les théologiens français ont beaucoup aidé, en particulier les pères Congar et Lubac. De Lubac, qui ont vraiment qui avaient travaillé ça. Alors le père Congar l'avait beaucoup travaillé, il avait écrit 2 livres sur le sujet, et ils ont fait un petit comité dans lequel il y avait Ratzinger pour en particulier ce chapitre qui fait 2 pages, hein. Ils ont quand même réuni les meilleurs théologiens de l'Église pour écrire 2 pages ils ont travaillé pendant des mois, et donc pour nous dire qu'est-ce que c'est que la tradition. La tradition, c'est l'acte de transmission qui continue encore. La tradition, c'est l'acte de transmission de tout ce que Dieu a dit ou fait. Et donc, cet acte de transmission, un de ses fruits, ce sera l'écriture. Il y a eu, il y a quelques semaines, au Bernardin à Paris, quelque chose qui était assez beau. Il y a 7 jeunes évangéliques, protestants évangéliques, qui ont rencontré 7 jeunes catholiques, et qui ont essayé de creuser la foi ensemble, et à travers 7 petits débats. Donc, mais vraiment très respectueux, ce n'est pas des débats politiques. C'est vraiment où chacun cherche à creuser la foi. Et moi, j'ai écouté que celui sur la tradition, qui était de l'écriture, et là, sur la scriptura. Donc l'évangélique dit, bah, pour nous, l'écriture est la seule source qui a autorité. Pourquoi? Parce que c'est la seule source qui vient de Dieu. Et le catholique répond, mais qu'est-ce que c'est l'écriture? Et l'évangélique lui répond, bah, ce sont l'ensemble des livres canoniques, c'est-à-dire que l'Église a reconnu. Mais au nom de quoi? Vous voyez, pour dire ce qu'est l'écriture et ce qui n'est pas, il faut quelque chose d'antérieur à l'écriture qui est, alors le mot indique, qui est un acte, qui n'est pas. Vous voyez, l'écriture, c'est un livre. L'écriture, bon, ça c'est le concile, mais si j'avais ma Bible, je dirais, voilà, l'écriture c'est ça. Semble-t-il. C'est plus compliqué que ça, en fait. La tradition, c'est l'acte par lequel l'Église transmet la parole de Dieu. Elle nous donne le canon des Écritures, mais elle nous donne aussi beaucoup d'autres choses. Et alors là, il y aura le débat majeur sur ce texte. C'est le rapport entre écriture et tradition, parce que les théologiens se disputaient pour savoir est-ce qu'on dit clairement il y a des vérités qui sont dans la tradition mais qui ne sont pas dans l'écriture. Ce qui en soit vrai, on le sait par exemple, je vous donne quelle est la source dans l'écriture de l'Assomption de la Sainte Vierge. Alors, on la trouve suggérée. Lève-toi, toi et l'arche, dans les psaumes. Oui, c'est une allusion, mais c'est pas suffisant. De fait, l'Assomption de Marie a toujours été crue dans l'Église, mais ça a été transmis pas par l'Écriture. Sauf que le Concile n'a pas voulu faire comme ça. Il a dit, sinon on a encore l'impression qu'on a 2 sources. Ben, y a les vérités qui sont dans l'Écriture, les vérités qui sont dans la tradition, il y a celles qui sont dans les 2. À la fin, on verse nos 2 trucs dans notre chaudron et c'est la potion magique. Ben, et c'est le Concile dit non, on va essayer d'être plus fin, de montrer que l'écriture et la tradition ne sont pas sur le même plan. La tradition, c'est l'acte de transmettre. L'écriture, ben, c'est le chapitre 3. Et donc, chapitre 3, on va réfléchir sur ce que sont les Écritures, sur l'inspiration et l'interprétation. Et donc ça, en particulier sur le fait que l'Écriture n'est pas une parole de Dieu incréée au sens du Coran, qui, vous voyez, le Coran pour un musulman, c'est la parole de Dieu qui est descendue sous la forme du livre. Ici, il faudra penser la part humaine dans l'Écriture et la part divine. Donc il faudra se poser quatre questions. D'où vient l'Écriture? Elle vient de la tradition, ça en a déjà répondu. Qui parle dans l'Écriture? C'est Dieu l'auteur principal, mais il passe par des hommes qui sont de véritables auteurs et qui donc laissent leur marque. Mais donc, en quel sens on peut parler d'une parole inspirée? De quoi parle l'Écriture? Est-ce que c'est un livre historique? En un certain sens, oui. Mais le but des Écritures est d'abord de nous révéler ce dont nous avons besoin pour le salut. Et enfin, comment lire l'Écriture? Le but, c'est de trouver le Christ dans l'Écriture, ce qui suppose de lire l'Écriture dans l'Église et avec l'Église. Ce qui introduit un troisième acteur entre tradition et Écriture sera le magistère, qui est effleuré dans Dei Verbo. Le magistère, c'est l'Église enseignante. Qui fait quoi? Ce n'est pas un canal de la parole de Dieu en soi, mais elle nous présente ce que nous donne la tradition, ce que nous dit l'Écriture. Le magistère fait œuvre de présentation de la révélation. On reverra tout ça. Là, je vous donne juste la structure du texte. Ensuite, chapitre 4, l'Ancien Testament. Quelle est la place de l'Ancien Testament? Est-ce que c'est juste une belle histoire, mais qui est finie, et que maintenant, on est passé à autre chose? Que nous dit en aujourd'hui pour nous l'Ancien Testament? Et là, il y a un chapitre important. Le Nouveau Testament, chapitre 5. Et puis, dernier chapitre, le chapitre 6, l'Écriture dans la vie de l'Église, donc le rôle de l'Église vis-à-vis de l'Écriture, et en particulier le rapport Écriture, théologie et magistère. Donc, tout ça, ça tient en 20 pages. Hein. Donc, vous voyez, on a un texte bien dense. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, j'ai eu en examen de toute fin d'études, j'étais tombé sur, je crois que c'est le chapitre, le numéro 8 de Dei Verbum, et je devais le commenter ligne à ligne, je devais commenter chaque mot. Donc, j'ai eu 6 lignes du numéro 8, et j'avais une heure, je crois. Donc, et on en trouve de quoi dire. Donc, c'est un texte dense qu'on pourra, certains morceaux, on les analysera ligne à ligne. Notamment, je pense, le numéro 8 sur tradition, les numéros 8 et 9 qui sont vraiment importants. 8, 9, 10. Donc voilà on a un peu la charpente, les nervures de notre document. Au moment où il est sorti, il faut bien se dire, ça a été une vraie nouveauté pour beaucoup de théologiens qui ont dû se dire, mais est-ce qu'on a remis en cause les deux sources? Est-ce que la tradition, c'est encore une source de la révélation? Le Concile répond, nous ne nous exprimons pas de cette manière. Nous disons, la tradition nous transmet la parole de Dieu. Donc, vous voyez, c'est un déplacement du focus pour un approfondissement qui ne change pas la foi. Et justement, pourquoi on ne peut pas changer la foi? Parce qu'on va voir que la tradition progresse de manière organique par développement et non pas par rupture. La tradition est vivante, donc elle progresse. L'Église avance dans sa compréhension de la parole de Dieu, mais jamais par rupture en disant « je me suis trompé, je change ». Elle ne dira pas un jour « il y a quatre personnes dans la Trinité ». Le jour où un prêtre ou un évêque m'a dit ça, vous voulez savoir qu'il a juste besoin d'être hospitalisé. C'est une certitude. Nous n'avons aucun doute là-dessus. La tradition avance par désenveloppement ou par un progrès organique, c'est-à-dire qu'en approfondissant ce que l'on croit déjà, on va plus loin. cardinal Newman, qui va être proclamé docteur de l'Église bientôt par le pape Léon XIV, avait pris l'exemple d'un rouleau de papyrus. Le rouleau, on l'a, mais on le déplie petit à petit pour voir les détails. Donc, on va apporter ici la notion de tradition vivante. Et non pas une tradition qui est à part, qui est comme une réserve de vérité, mais une tradition qui avance, qui vit. Et alors, certains diront, mais alors, si elle est vivante, c'est que c'est subjectif au sens du subjectivisme. C'est que bah, ce que l'on croyait au 19e, c'est plus que l'on croit au 20e. Et tout l'enjeu de ce texte, c'est de tenir l'équilibre entre l'objectivité de la révélation. La révélation peut être décrite comme un dépôt de vérité immuable, et en même temps, cette révélation, c'est un acte de Dieu qui est reçu par un acte humain, et donc sa compréhension continue à s'enrichir, non pas à évoluer au sens où il y aurait des ruptures, mais à s'enrichir de génération en génération. Donc c'est de bien tenir ces deux points, ces deux piliers ensemble. Il y a une révélation objective, mais la révélation est aussi un acte de Dieu reçu par un acte de l'homme. Voilà pour l'architecture générale et pour l'idée directrice de Dei Verbum. Alors, ce qui serait intéressant, donc la prochaine fois, on fera, je pense qu'on fera le chapitre 1 et 2, hein, la révélation en elle-même et la tradition, on finira peut-être par complètement la tradition, mais on essaiera d'en tirer des conséquences pastorales, spirituelles et pastorales. Parce que c'est bien d'étudier les textes, mais il faut les faire rentrer dans notre vie. Et je pense que ce texte-là, il a des conséquences directes sur nous, notre rapport à Dieu et notre manière de proclamer et d'enseigner la foi. Je pense en particulier pour la catéchèse, ou enfin, tout acte de transmission de la foi. Si on revisite la notion de révélation, on ira plus loin dans notre manière de transmettre la foi et on la modifiera, pas au sens, pas justement sans rupture, mais on ira plus loin.
C'était la première partie d'une série de conférences autour de la constitution dogmatique Dei Verbum. Elle était présentée par le père Michel Leclerc, enregistrée le 16 octobre 2025 au centre diocésain du Béarn à Pau, dans le cadre des Jeudis du Concile.